VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 17 janvier 2017. Au sommaire ce soir, Côte d'Ivoire, nouvelle mutinerie à Yamoussoukro. Et dans d'autres villes, le bilan initial est de 2 morts. Gambie, Yahya Jammeh déclare l'état d'urgence. Adama Barrow promet de prêter serment en territoire gambien. Nigeria, MSF condamne avec force le bombardement accidentel d'un camp de déplacés par l'armée nigériane ayant fait des dizaines de morts. États-Unis, à 3 jours de l'investiture de Donald Trump, nous verrons les défis qui attendent la prochaine administration. Et la CAN 2017 au Gabon, victoire du Ghana face à l'Ouganda, 1-0. Mais avant tout, le journal.
Et on commence avec la CAN 2017. Nicolas Pineau, une belle victoire, Nathalie l'a dit, face à l'Ouganda pour les Black Stars.
Et oui, 1-0, ça s'est passé à Port-Gentil. Le match compte pour le groupe D. Tout s'est joué en première mi-temps grâce à un pénalty transformé par André Ayou. Mais les Ougandais n'ont pas démérité. 1-0 pour le Ghana. À suivre à 19h temps universel, le Mali qui affrontera les pharaons d'Égypte qui ne sont plus revenus à la CAN lors des 3 dernières éditions.
Merci Nicolas Pineau. On reviendra avec le journal de la CAN un peu plus tard.
Studio de soir, l'Africain au Gabon. Hey. Ignorer c'est l'annonce, c'est pas bon. Hey. Plusieurs pays ont pris l'avion pour pouvoir jouer au foot de nombreux talents.
Des militaires ivoiriens ont de nouveau pris la rue, cette fois à Yamoussoukro, la capitale politique, pour exiger à leur tour le paiement de 12 millions de francs CFA et l'amélioration des conditions de vie. Ils réclament la même chose que leurs frères d'armes mutins issus de l'ex-rébellion. Nous avons sur place Makamara. Namasté.
Fonds social en Côte d'Ivoire, nouveau coup de théâtre. Des militaires se sont rébellés mardi dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, où 2 soldats ont trouvé la mort devant la garde républicaine de la ville. Tôt ce matin, selon nos informations, le bataillon blindé constitué pour rejoindre la MINUSMA au Mali, basé à l'école des forces armées des Ambakro, ont pris d'assaut le camp des Ambakro avant de casser la poudrière et s'emparer des armes. Aussitôt, le mouvement s'est étendu dans plusieurs grandes villes du pays. Les gendarmes se sont ralliés à la cause. Une situation très confuse actuellement dans ce pays qui sort d'une dizaine de jours de revendications militaires issues de l'ex-rébellion. Les mutins de Yamoussoukro exigent la prise en compte de tous les militaires ivoiriens dans le paiement des primes et l'amélioration des conditions sociales de tous les corps habillés en Côte d'Ivoire. Les pourparlers entre le gouverneur, le préfet, les hommes religieux et traditionnels et les mutins sont en cours dans l'enceinte même de l'école des forces armées de Côte d'Ivoire à Zambakro, une localité de Yamoussoukro, la capitale politique, où tout a commencé ce matin. Pour l'heure, aucune fumée blanche n'est sortie des conclusions des pourparlers qui devraient sûrement être connues dès ce soir. Narita Namasté, VOA Africa, Abidjan.
À 2 jours de la fin de son mandat, le président gambien Yahya Jammeh vient de déclarer l'état d'urgence. Il refuse toujours de céder le fauteuil à Adama Barrow, qui devrait prêter serment jeudi. Abdourahmane Dia.
C'est à travers un décret lu à la radio nationale que l'homme fort de Banjul a annoncé l'état d'urgence qui devrait durer 90 jours. Une décision qui intervient au lendemain de la déclaration du président élu Adama Barrow qui a annoncé depuis Dakar qu'il prêterait serment comme prévu jeudi en territoire gambien. 3 membres du gouvernement ont claqué la porte hier. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères, de celui des Finances et du Commerce. Ils ont été immédiatement remplacés par Yahya Jammeh qui tente de montrer qu'il contrôle toujours la situation. Plusieurs ambassadeurs ont déjà été relevés de leur poste après avoir demandé à M. Jammeh de quitter le pouvoir. De son côté, le Maroc mène actuellement une médiation discrète pour obtenir le départ du président Yahya Jammeh. À l'approche de la date du 19 janvier, des milliers de personnes ont fui le pays pour se réfugier au Sénégal voisin et en Guinée-Bissau, craignant des violences.
Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées ce mardi lorsqu'un avion de l'armée a bombardé par erreur un camp de déplacés à Ran, dans l'état de Borno. L'AFP parle de plus de 25 morts, tandis que MSF dit avoir vu 120 blessés et 50 morts. L'ONG internationale a déclaré condamner avec force une attaque choquante et inacceptable.
Les cours ont repris dans les établissements publics élémentaires et secondaires au Tchad après 4 mois de grève générale des fonctionnaires qui demandent le paiement de leur salaire. L'Union syndicale du Tchad avait annoncé mercredi dernier la suspension de la grève pendant 1 mois.
8 policiers égyptiens ont été tués lundi soir dans une attaque du poste de contrôle d'Al-Nakab par des hommes armés dans la province d'El Waïd El-Jedid, annoncé le ministère de l'Intérieur. 2 des assaillants ont été tués tandis que 3 autres membres des forces de sécurité ont été blessés.
Le naufrage de samedi au large des côtes libyennes a fait 4 morts et 180 disparus, dont des femmes et des enfants, selon 4 survivants cités par le HCR et l'OIM. Le bateau était parti vendredi soir de Libye avec près de 190 personnes à bord, essentiellement des Érythréens, des Éthiopiens et des Somaliens.
320 000 enfants souffrent de malnutrition en Somalie, où plusieurs régions sont menacées de famine en raison d'une sécheresse touchant l'est de l'Afrique, a averti le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. D'autres pays comme le Soudan du Sud, l'Éthiopie et le Kenya souffrent des conséquences de très faibles précipitations depuis 2 saisons, menant à des pénuries de nourriture et à la mort du bétail.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Theresa May a clairement exposé ce mardi sa vision du Brexit pour la première fois depuis le vote du 23 juin 2016 en faveur d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Toutefois, le calendrier exact et les termes de la rupture restent incertains. Arzuma Compaoré.
Theresa May a promis d'activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui déclenchera la procédure de divorce avant la fin mars. Les deux parties disposeront ensuite de 2 années pour boucler les négociations de sortie, sauf si elles conviennent de prolonger ce délai. Les questions de l'immigration, du marché unique ont également été abordées par la première ministre. Elle a dit souhaiter un futur accord commercial audacieux et ambitieux et un accord douanier avec l'Union européenne tout en souhaitant une sortie par étapes. Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, le français Michel Barnier, souhaite quant à lui parvenir à un accord avant les élections européennes de 2019. Bien qu'ils aient défendu en majorité un maintien dans l'Union européenne lors de la campagne du référendum, les députés devraient adopter un tel projet de loi, de peur de s'attirer les foudres de leurs électeurs. Quoi qu'il arrive, le résultat des négociations de sortie sera soumis au Parlement, qui se prononcera par un vote, a annoncé mardi Madame May.
Suite du forum de Davos en Suisse, Xi Jinping, premier chef d'État chinois à être présent, a plaidé pour une ouverture accrue de son pays et mis en garde contre toute tentation de repli. Claire Morin-Gibourg.
Devant 3000 dirigeants économiques et politiques, le président chinois a surpris. Il faut rééquilibrer la mondialisation et la rendre plus inclusive, a-t-il déclaré. Personne ne sortira vainqueur d'une guerre commerciale, selon Xi Jinping. Un discours qui vise aussi à présenter Pékin en défenseur du libre-échange face à un Donald Trump protectionniste. Nous devons rester attachés au développement du libre-échange et dire non au protectionnisme, a-t-il notamment martelé. Autant de piques contre le président élu Donald Trump qui entre en fonction vendredi et qui est farouchement contre la mondialisation libérale, accusé de détruire des emplois américains. Donald Trump a notamment promis d'ériger des barrières douanières avec la Chine.
L'Iran veut renforcer davantage sa présence en Syrie par la création prochaine d'un réseau de téléphonie mobile et d'un terminal pétrolier. Des accords y relatifs ont été signés aujourd'hui à Téhéran par les 2 gouvernements.
Plusieurs sondages importants indiquent que Donald Trump va commencer son mandat de 4 ans avec l'une des pires cotes de popularité de tous les présidents américains depuis 1976. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la Cannes avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous. Les matchs du groupe D ce mardi à Port-Gentil au Gabon et le Ghana, vice-champion d'Afrique en titre, a commencé de belle manière sa Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire 1-0 contre l'Ouganda, mais ce ne fut pas facile. Il a fallu un pénalty en première mi-temps d'André Ayew pour permettre aux Black Stars de l'emporter. Et les Ougandais qui ont fait belle figure, hein, bonne prestation sur la pelouse à Port-Gentil, mais cela a été insuffisant. À suivre à 19h, temps universel, le Mali qui affrontera les pharaons d'Égypte qui ne sont plus revenus lors des trois dernières éditions de la CAN. Les aigles du Mali y croient, ils pourront toujours compter sur leurs supporters présents sur place pour les soutenir. On va écouter les explications de l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Le Mali, qui court toujours après son premier titre africain, a fini en tête du groupe C lors des éliminatoires. Les pharaons égyptiens, l'équipe la plus gradée de cette CAN avec 7 titres en 23 participations, veulent retrouver la gloire d'antan qui s'est arrêtée avec leur dernier titre en 2010. Ils viennent à cette compétition avec un nouveau cru dont Mohamed Salah assume le leadership. Timothée Donangmaï, Port-Gentil, VOA Afrique.
Les léopards de la République démocratique du Congo ont le sourire puisqu'ils occupent seuls la première place du groupe C. Les Congolais qui n'ont pas été excellents hier à Oyem face aux Marocains. Mais l'essentiel, c'est la victoire pour cette entrée en compétition. Le compte-rendu à Oyem de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire.
Des lions marocains, plus techniques et plus tranchants, ont multiplié des assauts dans le camp congolais en première période sans parvenir à plier la défense congolaise. Bienvenue en seconde période, les Congolais réussiront à la 54e minute par Junior Kabananga Kalonji à ouvrir la marque sur une frappe de Moubele Ndombe, mal renvoyée par le portier marocain. Florent Ibenguel veut retenir la victoire et salue le mental de ses joueurs. Il promet pour le reste de travailler jusqu'au match contre la Côte d'Ivoire.
Notre dispositif de départ en première mi-temps n'a pas été tellement respecté, ce qui fait qu'on les a laissés beaucoup avancer. Et comme ils font très bien le pressing, ils sortent très vite sur le porteur du ballon. On a eu énormément de mal à conserver le ballon. On a rectifié en seconde mi-temps jusqu'à ce qu'on marque. On a terminé à l'énergie. Bravo aux joueurs.
Satisfaction également de Cédric Bakambu, l'attaquant de Villarreal, quoique pour son premier match à la CAN, il n'a pas pu marquer pour la RDC.
Oui, c'était un match très difficile. On le savait déjà avant de rentrer sur le terrain. Maintenant, voilà, on a mis un système en place. On savait que c'était pour aller à la guerre. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. C'était pas très beau à voir, mais le plus important, c'est de remporter les 3 points.
Depuis Oyem au Gabon, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les Congolais sont donc seuls en tête du groupe C, et ce, après le match nul 0-0 entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Les éperviers d'Emmanuel Adebayor ont su faire déjouer le champion d'Afrique en titre. Écoutons la satisfaction de Claude Leroy, le sélectionneur du Togo.
Oui, c'est un point formidable. Un grand coup de chapeau à mes joueurs qui ont fait un match incroyable. Bon, des conditions difficiles, une chaleur terrible. Mais je pense que tactiquement, on a parfaitement bien joué le coup. On a fermé dans les 3 dernières minutes parce que je voulais surtout pas qu'on prenne un but idiot sur un compte. Mais autrement, on a toujours essayé d'attaquer, toujours essayé de marquer un but. On s'est créé, je crois, 3 ou 4 occasions qu'on n'a pas réussi à convertir. On a eu une ou deux. Bon arbitrage. Un arbitrage de grande qualité, intelligent. Mais nous, on est très contents.
Claude Leroy, sélectionneur des éperviers du Togo.
L'Africain au Gabon, ignorer c'est l'annonce, c'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour voir jouer.
À suivre demain, le retour du groupe A. Le pays organisateur, le Gabon, devra se montrer plus conquérant après avoir été accroché par la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture. Les étalons du Faso seront les adversaires des Panthères ce mercredi à Franceville. Cyril Bayala joue au milieu de terrain pour le Burkina Faso. Il s'attend à un match difficile.
Nous nous préparons en fonction de l'adversaire et on espère que le deuxième match sera en notre faveur pour assurer notre qualification pour le deuxième tour. Les Gabons ils sont sur les terres et ils vont tout faire pour pouvoir au moins passer le premier tour. C'est aussi notre objectif, donc ça sera un match très engagé. Donc on s'attend à un match costaud, on s'attend à quelque chose de lourd, donc on se prépare psychologiquement et physiquement pour les affronter.
Cyril Bayala que j'ai joint ce soir pour VOA Afrique. L'autre match de ce mercredi, la Guinée-Bissau opposée au Cameroun. Retour sur les surprises des premiers matchs, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Depuis le match d'ouverture que le Gabon se croyait prédestiné à gagner contre la Guinée-Bissau, la 31e édition de la CAN semble s'être résignée à accepter comme invité surprise le suspense. Le néophyte de service de la compétition, la Guinée-Bissau a réussi à contrer techniquement et tactiquement le pays organisateur, incapable de déstabiliser une équipe venue pour défendre et contrer, une équipe qui se prend à rêver du destin du Cap-Vert de 2013, ou celui de l'Islande lors du récent Euro français. Décidément, il n'y a plus de petites équipes et tout se joue sur des détails. La preuve, C'est sur des coups de pied arrêtés que le Bissau-Guinéen Soares, le Camerounais Moukandjo, le Burkinabé Issoufou Dayo et l'Algérien Marez ont changé le cours des premières rencontres. Et si les Camerounais Bassogok et N.J. Clinton ou les artistes tunisiens et zimbabwéens peuvent regretter le bonus offert malencontreusement aux Burkinabés, aux Sénégalais et autres Algériens, la 31e édition de la CAN reste sur ses fondamentaux. La première journée est une grande revue d'effectifs que certains opportunistes peuvent exploiter avant des matchs décisifs de la deuxième journée. À demain.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique et rendez-vous ce soir pour un nouveau journal de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier notre page Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Nathalie Barge et Gaby Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour avec une première escale en Côte d'Ivoire.
Dans ce pays, la colère des militaires a pris une nouvelle ampleur. Des tirs se sont fait entendre pour la première fois à Yamoussoukro depuis le début de la mutinerie d'anciens rebelles déclenchée à Boaké. Mais cette fois-ci, c'est l'œuvre de soldats ou gendarmes non concernés par l'accord trouvé vendredi soir entre le gouvernement et les soldats mutins. Ils réclament une prime semblable à celle promise à leurs collègues. Eric Manirakiza a joint à Yamoussoukro un activiste de la société civile, Souleymane Traoré.
Le tir avait cessé aux environs de 11h, heure locale. Et cet échange de tirs, plus précisément, aurait eu lieu entre les éléments de la force des militaires et puis de la garde républicaine. Parce que ceux-ci auraient érigé des barrages devant le palais, l'ancien palais du président Fouboni, qui est toujours gardé par une garde républicaine.
Et qu'est-ce que vous avez vu dans la ville? Est-ce que des commerces fonctionnent? Y a-t-il circulation des biens et de services?
Comme vous le savez, quand il y a une situation comme ça, tout le monde est en alerte. Tous les commerces que nous avons vérifiés étaient fermés. Hein. Même le commissariat avait fermé. Hein. Il n'y avait pratiquement pas de circulation. Et c'est là, c'est après, nous avons d'ailleurs mesuré l'ampleur de notre risque. Puisque nous étions véhiculés, nous avons quand même fait le tour de la ville. Nous avons vu que les grandes artères étaient vides. Ensuite, les magasins avaient fermé, et même le commissariat et la gendarmerie, bien sûr. Vous savez, depuis qu'il y a eu ces remous, aussi bien au plan militaire que social, Yamoussoukro est considéré comme une ville relativement calme. On a vu une population cette fois-ci complètement désemparée par rapport à cette situation, au moment où, justement, l'ensemble de la population pensait que la solution était en voie de résolution ailleurs. Donc les gens se lèvent avec des pétarades un peu partout. Effectivement, tout le monde était abasourdi.
Vous dites que les tirs ont cessé. Est-ce qu'il y a-t-il un dialogue quelconque déjà amorcé?
Pour l'instant, d'après nos informations, le premier responsable de la ville, à savoir le gouverneur, c'est parti à Zamakro, qui est à leur base. C'est un camp militaire qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. Il serait rendu pour essayer de voir comment résoudre le problème. On est à ce stade actuellement. Et j'ai même appris aussi que le ministre serait en route, le ministre de la Défense. Et il faut quand même reconnaître que depuis longtemps, il y a eu des tirs ailleurs, mais il n'y a pas eu de mort. Ici, à Yamoussoukro, c'est qu'il y a mort d'homme. Hein? Les tirs n'ont pas duré comme ailleurs, mais il y a eu quand même mort d'homme.
Et la vie n'a pas encore repris?
Oh, pour l'instant, puisque les tirs se sont quand même arrêtés aux environs de 11h par là, bon, les gens ont commencé à prendre un peu confiance, ils commencent à sortir. Quelques magasins d'ailleurs commencent chimiquement à être ouverts. C'est ce que nous pouvons vous dire pour l'instant, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite. Tout dépend justement des issues de la négociation des autorités avec les mutins.
C'était Souleymane Traoré, activiste de la société civile à Yamoussoukro.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24. Retour sur la situation en Gambie, où séjourne en ce moment une délégation marocaine qui tente de convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir et de s'exiler au royaume chérifien à 2 jours de la fin de son mandat. Plusieurs anciens chefs d'État ont dû s'exiler à cause de crises politiques dans leurs pays respectifs. Pour le cas de la Gambie, est-ce la solution? La réponse de l'historien Moustapha Sow, joint à Dakar par Abdourahmane Dia.
C'est une des solutions. Maintenant, ce qui, en tout cas, donne espoir, c'est l'implication du Maroc. Et sans doute aussi, cela s'explique aussi par les relations familiale qui existe en tout cas entre la famille du président Yaya Djamé et les autorités marocaines. Le Maroc a plus de chances de réussir par rapport à ce qu'a fait jusque-là la CEDEAO.
Adama Barrow a quand même laissé entendre qu'il n'était pas nécessaire pour Yaya Djamé de s'exiler. Vous pensez que c'est quand même une solution sage que de laisser Yaya Djamé en Gambie?
Adama Barrow devait en tout cas insister sur un tel discours depuis son élection, où il n'a pas pu véritablement, de notre point de vue, rassurer Yaya Djamé et tous ses proches. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. À beau le dire, on verrait mal comment un président qui a contesté votre élection, comment un tel président peut rester cohabiter avec Adama Barrow dans le même territoire gambien. Aujourd'hui, la solution la plus sage est de voir les voies et moyens possibles justement pour faire expulser Yaya Djamé de la Gambie.
S'il s'exile, cela voudrait dire aussi qu'on mettrait une croix sur le passé.
Non, en fait, fondamentalement, je ne pense pas que l'exil est au moins d'effacer. En tout cas, tout ce que Yaya Djamé a eu à faire à la fois comme acte positif, comme négatif en Gambie. Oui, mais là, à l'heure où nous sommes actuellement, il faut régler la situation actuelle pour permettre à un président élu d'exercer ses fonctions.
L'exil, c'est un bon compromis alors?
Malheureusement, nous sommes arrivés dans une situation aujourd'hui qui fait que c'est la solution qui semble la plus appropriée à l'heure actuelle. Du moment où vous voyez que la situation se complique davantage pour des pays voisins comme le Sénégal, comme la Guinée-Bissau, avec l'afflux massif de réfugiés, le Sénégal pour sa part aussi, qui a des craintes pour que justement le conflit Casamance ne puisse à nouveau renaître. Oui.
Le journaliste et historien Moustapha Sow était joint à Dakar.
Mettant le cap sur le Cameroun, où les activités étaient paralysées hier dans les régions anglophones proches du Nigeria, où la société civile a lancé une opération ville morte pendant 2 jours, exigeant l'organisation d'un référendum pour instaurer 2 États fédérés. Yaoundé n'est favorable ni au fédéralisme ni à la sécession. Le Cameroun est un et indivisible, il le demeurera, avait tranché le président Paul Biya fin décembre dans son discours de fin d'année. Il a dépêché des missions sur le terrain en vue de résoudre la crise, dont celle conduite par l'ancien ministre Garga Aman Hadji. On l'écoute.
Il se passe 2 types de problèmes. Il y a les problèmes ponctuels qui concernent la grève des enseignants, des problèmes de l'application de la common law d'un côté, et de l'autre, le problème de fond. Le problème de fond, c'est le problème de la décentralisation qui a été décidée par la Constitution de 1996 et qui est insuffisamment appliquée jusqu'à présent. Et en fait, il y a un problème de représentativité gouvernementale. Voilà le problème qui se pose là-bas. Le chef de l'État m'a envoyé pour étudier à fond ces problèmes en vue de lui suggérer des solutions à prendre pour que le vivre en commun, le vivre ensemble soit effectif et sans arrière-pensée. Tandis que l'autre équipe dirigée par le Premier ministre essaie de remettre en place que les classes reprennent, que les juridictions reprennent. Voilà les 2 missions qui sont parallèles mais non identiques. J'ai parcouru le nord-ouest et le sud-ouest et je crois que j'ai récolté suffisamment d'informations et je vais me donner le temps de tout formuler à l'attention du président de la République et je suis sûr d'ici 6 mois.
Qu'est-ce qui, à votre avis, peut régler la situation anglophone qui, comme on le sait, dure depuis des décennies?
Le problème anglophone, c'est la prise en compte de l'histoire. En fait, ce qui se passe, c'est une critique de l'histoire institutionnelle. Ils ont formulé des critiques sur ce qui s'est passé par le passé. Depuis la réunification, depuis la conception du drapeau, le nombre d'étoiles, etc.
jusqu'à la Constitution de 1996 qui avait décidé une vaste décentralisation en profondeur. C'est cela qui est à la base de ce qui se passe et puis de la représentation. Ils estiment que dans le gouvernement, ils sont insuffisamment représentés.
Mais entre-temps, les troubles continuent sur le terrain. Comment les arrêter? Comment empêcher les abus de la police et même maintenant des civils?
Non, d'abord, j'ai dit ce côté-là. C'est pas mal la partie de ma mission. Ça, c'est la partie du premier ministre, chef du gouvernement. Deuxièmement, il s'est passé lundi et mardi des grèves, ce qu'ils appellent le ghost town. La police n'est pas intervenue, la gendarmerie n'est pas intervenue, l'armée n'a pas intervenu. Il ne s'est rien passé du côté des hommes de force de l'ordre. C'est entre les parents et les élèves et les grévistes qu'il s'est passé des problèmes. Il y a des parents qui voulaient amener leurs enfants, les grévistes ne voulaient pas. Voilà. Par contre, ça ne touche pas le côté des forces de l'ordre.
Au micro de John Lennon, on écoutait l'ancien ministre camerounais Garga Amanadji.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La journée Martin Luther King célébrée hier ici aux États-Unis dans un contexte de polémique entre le président élu et un ancien compagnon du pasteur assassiné en 1968. John Lewis devait-il remettre en cause la légitimité de Donald Trump? Abdourahman Dia a posé la question à Souleymane Bachir Ndiagne, professeur à Columbia University.
Le mot de légitimité, évidemment, est un mot extrêmement chargé, parce que dire d'un président qui vient d'être élu, quoi qu'on pense des conditions de l'élection, qu'il n'est pas légitime, c'est évidemment une parole qui peut être interprétée dans le sens d'une remise en question de la procédure et des institutions. Tout dépend du sens que l'on donne au mot de légitimité. Il lui donnait une signification morale plutôt qu'une signification institutionnelle, mais c'est vrai que c'est une parole qui peut être perçue comme une parole qui remet en question les institutions démocratiques américaines elles-mêmes.
Cette célébration de la journée Martin Luther King, dans ce contexte de polémique, est-ce que on peut dire que les relations entre la prochaine administration Trump et la communauté noire, ces relations sont mal parties?
Écoutez, elles étaient déjà mal parties. On sait qu'au moment des élections, il s'est posé beaucoup de problèmes. On a parlé des relations que Trump, en tant que mania de l'immobilier, avait eues avec la communauté noire. On a parlé du fait qu'il avait mobilisé un certain nombre de groupes sociaux qui s'est caractérisé par le racisme, etc. Eh bien, cette polémique-ci va évidemment envenimer les choses juste à la veille de son entrée en fonction. Dire que c'est quelqu'un qui n'agit pas, mais que c'est quelqu'un qui parle simplement beaucoup, alors qu'il est la quintessence de l'action pour les droits civiques, ce que nous rappelait encore récemment le film Selma, c'était maladroit et c'est la réponse elle-même qui est de nature à envenimer les choses.
Pour ce qui est des relations entre communautés ici aux États-Unis, ces relations n'ont pas forcément été meilleures sous le président Obama. Pourquoi devrait-on s'attendre à ce que Donald Trump fasse mieux que son prédécesseur?
Vous savez, pendant la campagne électorale, la seule chose qu'il avait dite pour montrer que la communauté noire devait être plus positive envers sa candidature, c'était de dire « qu'est-ce que vous avez à perdre ?». Ce n'était pas un discours positif. Par conséquent, il n'avait rien dit de précis. Et là, dans le cas d'espèce, il y a une sorte d'inquiétude sourde qui est présente et nourrit le scepticisme par rapport à l'amélioration des choses sous la présidence de M. Trump.
C'était le professeur Souleymane Bachir Ndiagne de l'Université Columbia.
Les Maliens s'apprêtent à affronter les pharaons d'Égypte. Ici à Washington, on met fin à cette édition qui a été mise en ordre par Georges Léonard Sagnot avec à la console Wagner Robert, présentation Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et pour l'actualité en continu, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. Bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.